Campus Bordeaux 88.1.
Il est 12h30 et c'est à présent l'instant invité et interview. On reçoit à présent en direct Sean Bouchard, directeur du label Talitre. Bonjour Sean, comment allez-vous ?
Bonjour. Tout va bien, un peu chaud, mais ça va.
Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un événement à venir ce samedi 17 septembre au Musée des Arts Décoratifs et du Design. Un événement autour de deux artistes, Maxwell Farrington et le Super Omar, c'est la même entité, le même artiste, et Nadine Coury. On va en parler, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le label Talitre ?
Alors, Talitre a 21 ans d'existence cette année. C'est un label qui est né à l'orée des années 2000, un statut associatif à l'origine, qui a beaucoup évolué depuis, qui est depuis passé en statut commercial SARL. Un label qui est né au tout début avec un certain nombre de groupes anglo-saxons, nord-américains, puis anglais, puis divers groupes français dans une esthétique pop-folk, rock, avec des signatures telles que The National en 2003, qui depuis est devenu quand même un groupe assez énorme. L'un des groupes emblématiques du label est Flotation to Warning, qui est un groupe anglais, très cinématographique, assez onirique, qui fait une musique assez rêveuse, psychédélique. Et puis, dans les sorties récentes, Maxwell Farrington et le Super Omar, qui jouent donc ce samedi au Musée d'Art Décoratif et du Design, qui est une formation franco-australienne. Voilà, on est sur un rythme de 5 à 6 sorties par an, avec un catalogue riche d'environ 130 références.
Alors, pour continuer sur le label, vous êtes directeur du label Talitre. C'est quoi exactement le rôle d'un directeur de label ?
Ouh là là, vaste question et vaste chantier. Déjà, il faut voir que les labels indépendants tels que Talitre ont des ressources humaines relativement limitées. Et que qui dit ressources humaines limitées dit don d'ubiquité et nécessité d'être relativement touche-à-tout ou couteau suisse. Le rôle d'un directeur de label, c'est avant tout le rôle d'un directeur d'entreprise, hein, puisque un label indépendant, c'est comme toute petite entreprise, c'est la nécessité de prendre des décisions, qu'elles soient financières, artistiques, culturelles ou stratégiques. Donc je pense que le rôle premier, c'est ça, c'est de tenir la barque d'une entreprise. Après, bien évidemment, en tant que label indépendant, l'un des rôles principaux de ma fonction, c'est de faire la direction artistique du label. C'est-à-dire de choisir les groupes qui vont être signés au sein du label, de choisir les groupes qu'on va accompagner le plus loin possible, en ce qui concerne la promotion des œuvres, en ce qui concerne les tournées de nos artistes, en ce qui concerne également les placements des œuvres dans les longs-métrages, dans les documentaires, dans les séries télé, etc., etc. Il faut savoir que Talitre, en fait, est très dans un mode do it yourself. On gère beaucoup de choses en interne, à la fois la promotion des groupes, à la fois la distribution qu'on délègue à des partenaires en France et à l'export, mais beaucoup de choses sont gérées en interne, c'est-à-dire qu'on est vraiment attaché à avoir une représentation la plus globale du label, non pas uniquement à travers les signatures artistiques, mais également à travers les images qu'on diffuse, à travers les textes qu'on écrit, à travers les communiqués de presse, à travers les bios. Et il est important qu'un label comme le nôtre puisse avoir une identité assez forte, non pas uniquement de par les musiciens qu'on va pouvoir défendre, mais de par tout ce qui va se dégager en fait de nos actions. Voilà.
Alors vous l'avez mentionné pas mal de fois, le mot indépendant. Un label indépendant, c'est une sorte d'engagement fort. J'ai une question par rapport aussi au côté plus entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque pour les labels, et notamment ceux dits indépendants, d'être en crise ou mis de côté, puisqu'avec l'ère d'Internet, il n'a jamais été aussi simple, aussi facile de diffuser sa musique tout seul ?
Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, Talitre, on est né avec le début de la crise de l'industrie musicale qui, quelque part, a débuté en 2002-2003 avec le début, peut-être, du téléchargement illégal, qui pour moi n'est pas véritablement une problématique, en fait, parce que j'ai toujours considéré que le téléchargement illégal était aussi une voie pour les internautes, pour découvrir la musique et pour diffuser plus encore une œuvre. Le risque que les labels indépendants soient mis de côté, j'imagine que ta question s'est mise de côté par un certain nombre d'artistes qui peuvent avoir la capacité de s'autoproduire et de s'autostructurer, et de pouvoir trouver en interne des voies de diffusion et des voies de rémunération suffisantes, et donc de pouvoir avoir un devenir commercial. Lorsqu'on regarde un tout petit peu en fait, les démarches qui sont faites par un certain nombre de musiciens, on voit qu'effectivement, des artistes cherchent à s'autoproduire et à s'autostructurer et à signer des contrats. Alors, c'est plus des tickets de péage en fait, qu'ils ont pour accéder à différentes plateformes de téléchargement et maintenant majoritairement de streaming, à vendre sur Bandcamp, à vendre sur d'autres voies de diffusion. Ceux qui réussissent sont quand même relativement rares. Et ceux qui n'ont pas besoin d'accompagnement de label ou de directeur marketing ou de manager sont quand même... Il y a assez peu d'élus qui arrivent à s'autostructurer, à s'autoproduire et à vivre de leur musique. On se rend compte qu'à un moment donné, les artistes qui font ça, c'est aussi pour attirer le regard ou l'oreille de labels indépendants qui, à un moment donné, vont les accompagner. Alors, est-ce qu'on a encore besoin des labels indépendants à l'heure actuelle? Honnêtement, oui, je pense que les labels indépendants sont encore toujours nécessaires pour diverses raisons. D'une part, pour l'expérience qu'ils apportent à ces artistes, pour l'image de marque qu'ils apportent également à des artistes qui veulent à un moment donné rejoindre une maison de disques, pour le plus grand confort financier qu'on peut leur offrir. Enregistrer un disque et produire un album, ça a un coût. Accompagner un projet artistique aussi. Pour être tout à fait transparent, les budgets d'enregistrement de nos artistes sont aux alentours de 15-20 000 euros. Après, on accompagne les projets, il faut presser les vinyles. Donc, sortir un disque, c'est à peu près un budget de entre 40 et 50 000 euros, ce qui est quand même pas rien. On peut bénéficier d'aide pour ça, mais je doute que les artistes soient forcément en capacité de le faire par eux-mêmes. Et puis, il y a quand même également un réseau qu'on apporte à des artistes. On travaille dans le milieu depuis maintenant une vingtaine d'années. On a des relations assez fortes avec un certain nombre de journalistes, avec Radio France, avec Télérama, avec Les Inrecuptibles. Et quelque part, je pense qu'à un moment donné, lorsque ces médias soutiennent nos sorties, c'est parce qu'il s'agit également d'une sortie télitre et qu'on est identifié auprès de ces médias-là. Et ce sont aussi des choses qu'on apporte aux artistes qui rejoignent le label et non pas uniquement des réseaux et des contacts sur le territoire national, mais également des réseaux sur l'export, puisqu'on a des distributions physiques et numériques sur l'ensemble des territoires européens, voire sur l'Amérique du Nord et sur le Japon.
Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile de produire de la musique indépendante dans le contexte commercial actuel ou au contraire, est-ce que c'est une force ou ça rend pas la chose plus délicate ?
Ça a toujours été difficile de produire de la musique indépendante pour un label comme Télitre. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas arriver à faire des choses et arriver à tirer notre épingle du jeu. J'ai expliqué tout à l'heure qu'on avait toujours connu la crise, et qu'il avait fallu se battre en permanence contre vent et marée pour réussir à mener la barque d'un label indépendant. Ça reste évidemment très compliqué. On a vécu deux années diablement difficiles avec la pandémie, où beaucoup de choses ont été remis à plat, où beaucoup de plans promotionnels ont été reconsidérés, annulés, reportés, beaucoup de concerts et beaucoup de tournées ont été mises à mal par cette crise qui nous a diablement impactés, ça c'est évident. Mais c'est aussi une période qui nous permet, je l'espère, de repenser certaines choses, de remettre en place également certaines idées, d'essayer de se restructurer, d'essayer de faire des bons choix. On est encore plus, peut-être qu'avant, dans un phénomène de concentration, c'est-à-dire que l'industrie musicale, comme toute industrie à l'heure actuelle, est entre les mains d'un certain nombre de groupes, trois ou quatre groupes qui sont les majors de l'industrie, que ce soit Warner, Sony ou Universal, qui concentre les pouvoirs, qui concentre le marketing, qui concentre également les lobbies et qui s'étend le plus encore auprès d'un certain nombre d'acteurs de l'industrie musicale. On a aussi le risque qu'un certain nombre d'acteurs issus, non pas de l'industrie musicale, mais d'autres industries, que ce soit des multinationales, que ce soit des fonds de pension, que ce soit d'autres acteurs qui investissent les champs des musiques actuelles ou d'autres musiques, puissent intervenir plus encore et puissent racheter, que ce soit des médias, que ce soit des festivals, que ce soit des salles de concert. Et ça, c'est vraiment un risque que connaît l'industrie musicale depuis maintenant une dizaine d'années et qui s'amplifie plus encore avec la crise, parce que un certain nombre de structures ont été effectivement soutenues pendant la crise, mais je pense que la véritable question qui se pose, c'est comment est-ce que ces structures vont pouvoir maintenant sortir de la crise et continuer à avoir des projets porteurs qui vont leur permettre d'exister toujours dans 5 ou 10 ans.
Aujourd'hui, on parle beaucoup du streaming et la manière dont on écoute la musique a beaucoup changé. Est-ce que la diffusion radio pour la musique est toujours aussi importante qu'à une certaine époque ?
Oui, bien sûr, elle est évidemment toujours importante. Ce que je trouve toujours étonnant en fait dans les discours des médias qu'on va appeler des médias de masse, c'est que il y a toujours une certaine radicalité de propos. Ce qui est assez étonnant, c'est que si on regarde un tout petit peu en arrière, en 2005, Libération à la veille du MIDEM titrait sur la mort du CD. On regarde encore maintenant les derniers communiqués de presse du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, qui met en exergue le fait que le CD n'est pas mort et qui met en exergue le fait qu'il y a un retour du CD. Alors c'est quand même assez drôle en fait de voir tous ces communiqués de presse qu'on voit à droite à gauche. Alors je dis ça parce qu'en fait il y a aussi des tendances et des tendances lourdes qui indiquent que le streaming est en train de tuer la radio et ce depuis une dizaine d'années. Je pense qu'un certain nombre de médias et de médiums et de modes de consommation ou d'écoute de la musique peuvent coexister. Et c'est pas parce que le streaming existe que la radio va disparaître. Et bien au contraire, je pense que la radio peut trouver de nouvelles voies à travers le streaming, des nouvelles formes de diffusion, des podcasts, des envies de se réinventer. C'est comme en fait le cinéma. Alors effectivement, les plateformes de téléchargement ou les plateformes de vente en ligne de films peuvent mettre à mal la fréquentation dans les salles obscures, comme le streaming peuvent mettre à mal la radio, mais il y a quand même une nécessité pour des labels indépendants comme les nôtres de dialoguer toujours avec les radios et de pouvoir trouver des formes de prescription que les radios apportent et que les plateformes de streaming n'apportent pas toujours. Donc bien évidemment, les radios sont toujours nécessaires, ne serait-ce que pour les relations humaines et le fait qu'on puisse aujourd'hui être là dans un même studio et échanger sur des sujets d'actualité que le streaming ne peut pas toujours permettre.
Et pour en revenir à l'actualité, justement, l'événement de samedi, on va en parler. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui est à venir samedi et nous parler notamment de votre collaboration avec le Musée des Arts Décoratifs et du Design ?
Alors, l'idée de la soirée de samedi, elle est née, il y a quelque sorte, il y a de nombreuses années, avec la volonté, au sein du label, de faire des ponts avec d'autres structures et d'autres champs artistiques, et non pas forcément des structures qui soient directement concernées par les musiques actuelles, mais pouvoir essayer de créer des passerelles avec d'autres champs artistiques et d'autres domaines artistiques. Ça fait quelques années que je vois le dynamisme du Musée des Arts Décoratifs et du Design et notamment les expositions que le musée propose et cette ouverture que le musée dégage à travers les expositions qui sont présentées là-bas. Ils ont un lieu fabuleux, ils sont en plein centre-ville, ils ont cette cour qu'on peut fermer, cette cour d'honneur hein, au centre du musée qui permet de faire des choses assez fabuleuses. Il y a 2 ans, je parcourais la ville avec des pochettes de vinyle et je prenais en photo ces pochettes de vinyle de façon assez symbolique pour montrer qu'un vinyle est également une œuvre d'art, pour montrer que effectivement les artistes n'étaient pas sur scène à cause de la pandémie, mais aller vers le public à travers ces photos de pochettes de vinyle qu'on prenait à travers tout Bordeaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une session au sein de la cour du Musée des Arts Décoratifs et que j'ai rencontré en fait l'équipe du musée et que l'idée est venue de faire des choses ensemble. J'ai rappelé Karine, la chargée de communication, quelques mois plus tard. On s'est rencontrés, on a parlé encore de cette volonté d'essayer de créer des ponts entre le musée et Talitre, et que on a eu l'envie et le souhait de monter des projets communs, et notamment de monter des concerts, bien évidemment, puisque c'est le cœur de notre métier avec la signature de groupe. Et voilà, donc l'idée est née comme ça. J'ai bien sûr voulu impliquer le Rocher de Palmer et l'équipe de musique de nuit, qui est une équipe avec laquelle on collabore depuis de nombreuses années et qui nous apporte également leur savoir-faire et leur pratique de l'organisation des événements hors les murs. L'idée aussi, c'était d'essayer de proposer quelque chose d'un peu différent aux spectateurs et au public, d'essayer d'ouvrir un petit peu le champ des concerts et de proposer de mixer patrimoine et organisation de concerts, pratiques culturelles, musicales et événements plus inscrits dans un centre-ville de Bordeaux. Donc l'aîné est né de façon assez naturelle entre nous.
Alors ce soir se produiront Maxwell Farrington et le Super Omar ainsi que Nadine Coury. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ces deux artistes ?
Alors Maxwell Farrington, en fait, c'est une signature qui est venue il y a 2 ans, presque en fin de première vague de Covid. En fait, je reçois un mail du Super Omar. C'est un duo à l'origine, Maxwell Farrington et le Super Omar. Maxwell Farrington, qui est un Australien qui vit maintenant à Binic du côté de Saint-Brieuc. Le Super Omar, c'est un musicien français qui habite du côté d'Avignon. Donc c'est un duo à l'origine, qui est accompagné de 3 musiciens sur scène, qui délivre une musique très 60s, très marquée, Scott Walker, Sinatra, Maxwell Farrington a une voix de crooner, le Super Omar, donc Christophe, fait tous les arrangements, les accompagnements, et donc qui apporte tout son savoir-faire et toute l'élégance de l'orchestration à travers ses œuvres et sur scène. Ils ont sorti un album chez Talitre qui s'appelle Once en avril 2021, qui a été très largement salué par la critique, qui a été album du mois dans Rock and Folk, qui a été playlisté sur France Inter. Ils ont été invités par Antoine Decaune. Voilà, donc il y a eu vraiment une belle histoire qu'on peut raconter à travers ce projet-là. Nadine Coury, c'est la plus récente signature du label. C'est une artiste anglo-libanaise qui sortira un album produit par John Parrish au mois de novembre prochain chez Talitre. Voilà, c'est une musique, là encore, assez élégante, tout en retenue. Elle a une voix assez fabuleuse, très pop, très... Comment décrire son œuvre, très pop, avec des Roland Folk, et elle est là sur scène avec deux autres musiciens pour présenter son album.
Et d'ailleurs, comment et pourquoi on décide de miser sur un artiste en particulier au sein d'un label comme Talitre ?
C'est à la fois très simple et très compliqué. Très simple parce que on mise sur un artiste à l'origine uniquement sur le coup de cœur, sur l'écoute, et sur le fait qu'à un moment donné, il faut... aller à la rencontre des artistes, il faut écouter beaucoup de musique, il faut découvrir des artistes en allant dans les festivals, en écoutant pas mal de musique sur internet, en écoutant toutes les démos qu'on reçoit, en étant également recommandé par des artistes qui soutiennent le label depuis de nombreuses années et qui nous recommandent auprès d'artistes qui recherchent un label. Donc ça, c'est quand même important d'être à l'écoute un petit peu près de tout. Donc la première chose, c'est d'avoir vraiment le coup de cœur et d'avoir l'envie et la foi pour porter ces artistes-là. Après, bien évidemment, il y a une réflexion plus commerciale qui s'opère. et qui nous permet d'avoir une réflexion un tout petit peu plus stratégique autour de l'œuvre et autour des journalistes qu'on connaît et qui vont pouvoir plus spécifiquement défendre des artistes qu'on va signer. Ça c'est le côté relativement simple de la signature. Le côté plus compliqué, c'est de savoir si ce coup de cœur, qui est quand même très subjectif, va nous permettre de porter le plus loin possible l'œuvre et va nous permettre d'avoir quand même un certain nombre de retombées commerciales, parce qu'on reste une entreprise commerciale, à un moment donné il est nécessaire de vendre pour continuer à exister, et nécessaire de vendre pour continuer à avoir d'autres projets. Donc est-ce que le côté subjectif et coup de cœur est suffisant pour pouvoir être toujours là dans quelques années? C'est un peu toute la question qui se pose lorsque on signe des artistes, et puis de savoir si les choix qu'on fait sont de bons choix, et est-ce que les choix qu'on fait sont des choix qui vont nous permettre tout simplement d'entreprendre encore et de grandir encore, ce qui n'est pas forcément toujours très très simple.
Alors, on dit souvent que dans le milieu de la musique, c'est difficile, c'est compliqué de se faire une place. À partir de quel moment on peut dire qu'un artiste fait carrière ? Est-ce que c'est à partir du moment où il arrive à vivre de sa musique, tout simplement, ou est-ce que c'est plus subtil, plus compliqué que ça ?
Je pense que ce qui est compliqué à la fois pour un label et pour un artiste, c'est de se dire que rien n'est jamais gagné. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des retours formidables, on a beau avoir des chroniques dans Télérama, on a beau avoir des playlists, on a beau avoir l'accueil de festivals, des tournées, le statut d'intermittent qu'on peut acquérir pour un artiste, qui est quand même le Graal pour un certain nombre d'artistes. Ça, c'est une chose. Ce qui est plus compliqué, c'est de continuer à grandir et de continuer à conserver le statut qu'on a pu acquérir. On dit toujours que acquérir l'intermittence est une chose, le plus dur c'est de la conserver. Et je pense que c'est assez vrai. Avoir une vraie visibilité pour un artiste et pour un album, c'est une chose. Le plus dur, c'est de continuer à avoir cette visibilité. Et lorsqu'on est monté assez fort, et là je pense notamment à Maxwell Farrington et le Super Omar qu'on va voir ce samedi sur la scène du Musée des Arts Décoratifs, on a eu véritablement un accueil formidable pour leur premier album. La question qui va se poser, c'est comment faire pour continuer à avoir cette visibilité. Il est certain qu'on ne sera pas album du mois systématiquement dans Rock and Folk. Il est certain qu'on n'aura pas forcément toujours une playlist sur France Inter, parce que les choses évoluent très très vite. On est au sein d'une industrie musicale qui est constamment bouleversée. Les équipes des programmateurs radio changent en permanence. En l'occurrence, Antoine Decaune n'est plus à France Inter. Donc il faut sans cesse essayer de se renouveler dans les démarches promotionnelles qu'on fait, dans les communications qu'on ferait auprès du public, dans les titres que Maxwell Farrington et le Super Omar vont pouvoir nous proposer. Donc je pense que le plus complexe pour un artiste et pour un label, c'est d'essayer de sans cesse de se poser des questions, sans cesse de considérer que rien n'est jamais gagné et qu'il faut toujours essayer de trouver de nouveaux partenaires, il faut sans cesse essayer de trouver pourquoi pas de nouvelles collaborations, il faut enrichir en fait ses propos, il faut enrichir sa façon de faire, il faut toujours essayer d'aller au-delà des choses pour grossir au fur et à mesure et pour espérer effectivement d'acquérir une phase B, ce qui va être la plus large possible et d'essayer d'avoir une diffusion la plus large possible.
Et aujourd'hui, de quoi a besoin la musique indépendante ? Est-ce qu'il y a des besoins en particulier ? Est-ce que vous avez un message à faire passer par rapport à ça ?
De quoi a besoin la musique indépendante ? Je pense que ce qui manque au sein, alors ça c'est au sein des structures des musiques actuelles et au sein des indépendants, je pense que l'un des points le plus sensible pour moi, mais pourtant je pense que c'est vraiment fondamental, c'est un besoin d'information. C'est un besoin de maîtriser les outils qu'on peut avoir, les outils et ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire qu'on est dans une industrie qui est en perpétuelle mutation et en perpétuelle évolution. Et ce qui est nécessaire, c'est de se former toujours à ces nouveaux outils, de se former toujours à tous ces algorithmes, pour revenir un tout petit peu au streaming, d'être à la page de tous ces réseaux sociaux, d'être à la page de toute cette façon qu'on peut avoir de communiquer, voilà, de maîtriser tous ces outils sans forcément après les utiliser directement, mais de savoir ce qu'on peut en faire. et de savoir comment les utiliser, mais aussi de savoir comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, s'en démarquer. Ça, je pense que c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire que un label comme Talitre ne va pas forcément plonger directement dans tous ces outils-là, mais pour autant, il faut les maîtriser. Parce qu'on a besoin de se démarquer, parce qu'on a besoin d'avoir des façons de communiquer, parce qu'on a besoin d'avoir une certaine forme de singularité. Et ça, j'insiste beaucoup. C'est pas parce qu'il y a des outils qu'il faut s'en servir, c'est pas parce qu'on maîtrise ces outils-là qu'il faut pleinement plonger dedans. Mais il faut les maîtriser pour peut-être aller au-delà et peut-être se singulariser par rapport aux autres. Ça, je pense que ça, c'est indispensable. On a besoin de beaucoup de choses. On a besoin, on a besoin que les médias soient dans une certaine forme de moindre concentration, ça c'est certain. On a besoin que la presse écrite existe et on a besoin que la presse écrite soit encore curieuse. On a besoin que les radios indépendantes continuent d'exister. On a besoin que les radios indépendantes aient le soutien du public et des instances publiques. On a besoin que les salles de musique actuelle et les programmateurs de salles puissent rester à l'écoute de nos productions. On a besoin que les festivals puissent avoir une programmation plus ouverte et les festivals puissent avoir un accueil de groupes émergents le plus large possible. Lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution en fait, des festivals sur ces 10 dernières années, on voit que finalement ce sont toujours les mêmes groupes qui tournent dans 10 ou 15 festivals et qui cadenassent un petit peu les têtes d'affiche. Donc ça c'est une vraie problématique. On a besoin d'avoir des initiatives locales plus fortes. On a besoin d'avoir également des initiatives dans des villes secondaires plus fortes. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. On collabore. Alors, il faut ici lui rendre hommage avec une personne qui s'appelle David Despèce, qui avant était programmateur du Krakatoa à Mérignac et qui, il y a une dizaine d'années maintenant, a décidé de partir à la Réole et qui organise à la Réole, à Saint-Macaire et puis dans toute cette région un certain nombre de concerts, un certain nombre de rencontres. Et ça, c'est assez formidable pour un label comme le nôtre parce que ça nous permet assez régulièrement d'avoir des concerts là-bas. Ça permet de faire vivre un lieu et une région. Il y en a d'autres, des initiatives telles que celle-ci. Et ça, c'est quand même des choses qui nous permettent d'avoir en face de nous de vrais interlocuteurs passionnés par la musique. Je pense également au Rocomotive à Vendôme qui fait un travail formidable maintenant depuis je ne sais pas combien d'années, mais 25 ans peut-être. Je pense également à Coconut Party qui, pour des raisons que je comprends, hein, a fait sa dernière édition il y a une semaine maintenant. Voilà. Et ça, ce sont des associations qui, pour nous, sont fondamentales parce que ce sont des passionnés de musique. Parce que ce sont des alternatives fortes et directes à la concentration musicale, parce que ce sont des gens qui nous accompagnent depuis longtemps et des gens et des associations qui peuvent accompagner diverses structures au sein des musiques actuelles, et ça c'est quand même assez fondamental. Donc on a besoin d'eux et on a besoin qu'ils soient toujours là, et on a besoin que les politiques publiques puissent les soutenir, comme on a besoin que les politiques publiques puissent soutenir le réseau des radios campus et le réseau des Ferrarock et toutes ces radios indépendantes qui œuvrent pour que la diversité musicale soit la plus largement diffusée et entendue, et ça c'est vraiment indispensable pour nous.
Et une dernière question, est-ce que vous avez un ou des conseils pour des personnes qui souhaitent se lancer dans la musique aujourd'hui?
Oh là là. C'est d'y aller. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au sein des musiques actuelles, et c'est pas parce qu'on connaît une crise assez forte depuis 20 ans et peut-être encore plus forte depuis 2 ans qu'il faut avoir peur. Je pense qu'il faut... Il faut bien évidemment se plonger dans l'idée de monter un label et dans l'idée de se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je pense que la première chose, c'est véritablement d'y croire, c'est de se dire qu'on peut encore développer beaucoup de choses, que justement, c'est parce qu'on est en période de crise qu'il y a beaucoup de nouvelles facettes qui vont émerger, je l'espère, de cette crise et beaucoup de nouvelles choses à entreprendre. Ça, c'est vraiment fondamental. Il faut y croire, mais il faut également être diablement patient. Le label a mis quand même un certain nombre d'années à se structurer. Désormais, on l'est. On a quand même la chance d'être trois temps plein avec moi-même, plus un emploi mutualisé avec les deux autres labels avec qui on partageait l'Ocoplace de la Victoire. Donc, on est trois un tiers, on va dire, au sein du label, ce qui est plutôt pas mal. Mais il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve d'exigence. Il faut considérer qu'un label indépendant, comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est une entreprise. Et donc, il faut faire preuve de sérieux. Il faut être présent tous les jours au bureau. Il faut faire preuve de persuasion. Il faut se dire que mener la barque d'un label indépendant, c'est pas toujours très drôle. Mais pour autant, c'est aussi beaucoup de bonheur. Il faut se dire que... les choses se construisent au fur et à mesure et qu'un label indépendant, c'est comme monter un mur, brique par brique, pierre par pierre, et que l'important, c'est d'avoir des fondations solides. L'important, c'est de croire en la musique qu'on défend. L'important, c'est de croire au projet qu'on va porter et que... et que voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas hésiter non plus à pousser la porte d'autres labels ou en tout cas à téléphoner à d'autres labels. Moi, j'ai été beaucoup soutenu à l'origine par Vicious Circle, et notamment Philippe, le fondateur du label qui maintenant n'est plus là, mais qui s'est rendu disponible pour passer 2 heures de son temps avec moi quand j'ai monté le label en 2000. Et vraiment, je suis le plus disponible possible pour donner des conseils à des gens qui souhaitent se lancer, qui souhaitent monter leur label et qui souhaitent à un moment donné s'entretenir avec des labels comme les nôtres. Et peut-être que ça peut leur permettre de gagner beaucoup de temps. Qu'à des moments donnés, nous envoyer un mail pour savoir s'ils peuvent passer au bureau, s'ils peuvent appeler, s'ils peuvent avoir des conseils. Si... voilà, je pense qu'on est aussi là pour ça. Je pense qu'il faut que les labels indépendants se disent que les autres labels sont des confrères et non pas des concurrents, sont des gens avec qui on peut collaborer. Et vraiment, pour revenir un petit peu à la structuration du label et avec l'organisation qu'on a mis en place aux 12 Places de la Victoire à Bordeaux, on collabore et on partage les locaux avec Vicious Circle, Platinum, puis une fédération de labels indépendants qui s'appelle la Félin depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et c'est vraiment une collaboration ultra vertueuse. On se donne des coups de main. On collabore, on se passe des contacts, on considère que les autres sont plus que des collaborateurs. On considère que si un label monte, hein, tous les labels vont monter et que quelque part, soit on est tous là, soit plus personne n'est là. Donc voilà, vraiment ça c'est super important. On n'est pas forcément sur les mêmes esthétiques, mais on est sur les mêmes envies et sur les mêmes philosophies et sur les mêmes volontés de se développer ensemble, d'avoir des valeurs communes et de se dire que voilà, c'est presque une grande famille qu'on a mis en place et ça, c'est quand même super chouette.
Campus Bordeaux. Eh bien, on arrive au terme de cette interview. Un grand merci, Sean Bouchard, d'être venu sur notre antenne pour répondre à nos questions. On rappelle juste au passage l'événement de samedi 17 septembre, au Musée des Arts Décoratifs et du Design, où se produiront Maxwell Farrington et le Super Omar, ainsi que Nadine Khoury. On va se quitter d'ailleurs en musique avec le titre Hi Hat It All et Vertigo de ces artistes respectifs. Voilà, on va se quitter tout de suite en musique avec le titre Hi Hat It All.
gone. At home I sit and in a bowl I vent, in stitches staring at the
shift and drive. Bye. down, I'm spinning. Not need to keep moving on.
مدينة الفن
بوردو، كامباس بوردو.